vous ai rappelé hier ces deux regards d'Aristote sur la qualité. Il faut toujours bien les différencier. On avait vu quelque chose d'analogue à propos de la substance. Puisque, au niveau des catégories, la substance reste substance première, substance seconde. Il y a une dualité de regard sur la substance au niveau du legein, du dire. Il faut arriver petit à petit à comprendre ce que ça veut dire, hein, les catégories. C'est important puisque c'est comme une sorte de propédeutique. Et on sait que c'est difficile à préciser étant donné les multiples interprétations sur les catégories. Pour Saint-Thomas, c'est de la logique. Pour beaucoup d'aujourd'hui, c'est de la grammaire. C'est à la fois de la logique et de la grammaire. Mais c'est plus que de la logique, c'est plus que de la grammaire, c'est aussi ce premier regard de l'homme sur l'homme. Ce qui est très curieux, c'est que les catégories ne sont pleinement applicables qu'à l'homme. Puisque la dernière catégorie, c'est l'habitus. Et il n'y a que l'homme pour lequel vraiment il y a habitus, mais pas dans le sens de l'excès, l'habitus dans le sens d'avoir, la propriété. Un animal, au sens strict, n'a pas d'habit. Il n'y a que l'homme qui a un habit. Évidemment, on pouvait mettre un petit habit au chien. Mais le chien n'use pas cet habit. C'est le propriétaire qui le lui met par-dessus sur son dos. Tandis que l'homme se sert d'un habit, comme il se sert d'un outil. L'usage. Ça, c'est la dernière des catégories. Et l'homme se sert d'une pipe. Regardez un fumeur. Sa pipe, c'est quelque chose. S'il la casse, c'est quelque chose de très grave. Parce que sa pipe, c'est comme le prolongement, si vous voulez, de lui-même, l'outil. Alors, il faut bien comprendre que les catégories, c'est cette première approche que nous faisons des diverses déterminations de l'homme. Des diverses quiddités. Et c'est la table des divers modes quidditatifs de l'homme. Des déterminations. C'est très très curieux. C'est assez génial parce qu'il fallait faire ça. Nous, on répète, hein. Il fallait découvrir ça. Quels sont les contacts de l'intelligence en face de la complexité de l'homme? Et c'est un peu une peinture impressionniste. Toucher, la qualité, et tout de suite, quatre modalités de la qualité. Ça, il faut beaucoup y réfléchir, les quatre modalités de la qualité, ce que je vous disais hier. Quand vous voyez quelqu'un, alors essayez de le redécouvrir vous-même, hein, parce que tant que vous répétez Aristote, vous répétez Aristote, vous ne faites pas de philosophie. Il faut redécouvrir ce que représente pour vous dans le contact particulier que vous avez avec un homme ou un animal, vous découvrez cette détermination très spéciale de lexis, c'est-à-dire une manière d'être, un état, une manière d'être qui caractérise cet être, mais qui le caractérise non pas d'une manière extérieure, comme la figura. La figura, c'est la physionomie. Ça le caractérise de l'extérieur, mais qui le caractérise de l'intérieur. Il y a une espèce d'intériorité dans la saisie de la qualité. On sent bien que la qualité comme telle ne peut pas être saisie uniquement d'extérieur. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus génial, vous voyez, dans ce tableau que donne Aristote. Parce que c'est très bien d'énumérer. On a énuméré, ça c'est le premier travail qu'il faut faire. Il faut lire les catégories. Je dis toujours, en première année de philosophie, il faut avoir lu les catégories. Indispensable. Mais quand je dis lire, il faut avoir compris ce que représente cette espèce de toucher d'intelligence qui atteint dans l'homme ses diverses quiddités, ses diverses déterminations, ces divers points d'intelligence que nous avons sur l'homme. Alors vous voyez cette chose curieuse, exis, habitus. Nous verrons hein, ensuite quel est l'habitus premier donc, qui donne l'intelligence de tous les autres. Ce sera la sagesse. Et Aristote en parle. Vous voyez que la sagesse, hein? Quand vous dites cet homme, c'est un sage, c'est pas tout à fait la même chose que la figura. La figura, c'est quelque chose de particulier. Dans un langage très réaliste, la figura, c'est l'aspect qu'a quelqu'un. Et quand vous direz, il a de la gueule, c'est la figura. C'est ça que vous voulez exprimer. C'est pas la sagesse. Il a la gueule d'un bandit. Je me souviens, père Marien Limbe racontant une rencontre qu'il avait eue à Genève. Où il a eu peur, hein. Vous voyez ce que ça pouvait être. Il a vu quelqu'un qui est venu le voir, parloir. Bon, il avait sa figura. Dit, ben, c'est pas... Mais tout d'un coup, il enlève sa barbe, il enlève sa chose, il enlève ses dents. Alors, il se trouve devant un type invraisemblable. Avait dit, j'ai eu peur, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet individu? Puis alors, à ce moment-là, le type lui a dit, je suis un bandit. On me recherche. C'est pour ça que j'ai cette barbe. C'est pour ça que j'ai ces cheveux. C'est pour ça que j'ai ces dents. Je me suis enlevé toutes mes dents. Je suis un bandit. On me recherche. Un des grands bandits. Oh. Alors ça, c'est à ce moment-là, vous saisissez ce que c'est que la gueule de quelqu'un. Vous saisissez la figura. C'est ça la figura. Il faut saisir ce que ça représente, voyez, parce qu'il y a un réalisme dans les qualités qui est notre réalisme. Hein. Notre premier réalisme, c'est les qualités, c'est pas la quantité. Pas du tout. La quantité, c'est le domaine de l'imaginaire. Tandis que les qualités, ça. Alors, au contraire, vous voyez la figura d'un enfant. C'est juste inverse. Vous ne direz pas parce qu'il a une gueule, ce gosse. Non, c'est curieux. Il y a quelque chose de particulier. Regardez l'enfance, c'est la figure d'un enfant. Le sourire d'un enfant. Le sourire fait partie de la figura. Ça illumine. Et l'habitus, vous voyez, c'est pour ça que je dis... Et c'est ça qui est très curieux dans la qualité. Ça, c'est pas commode à comprendre. On essaiera. Mais au moins ici, je vous pose le problème, parce que c'est quand même très important. Il y a la figura. C'est quelque chose d'extérieur. Vous la saisissez immédiatement. En présence de la figure d'un enfant, là. Quelle était la figura de Marie? tous les peintres ont essayé de faire ça, chacun en essayant de mettre en Marie un peu l'idéal de la femme, la figura. Mettez à côté le bandit, enfin, quelque chose. Et puis, ici, il y a une intériorité. La qualité n'est pas uniquement extérieure. Il y a quelque chose qu'on saisit de l'intérieur, la qualité. La qualité d'un être. Vous voyez, c'est saisir la sagesse. Quand vous saisissez cet homme, c'est un sage. C'est un contemplatif. Une qualité particulière. Il a une intériorité très particulière. Vous saisissez tout de suite les gens qui ont une certaine intériorité et les gens qui sont toute voile dehors. On dit, oh, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a pas d'intériorité du tout. Il ne devient plus que figura. L'agitation. On voit ça, des gens comme ça. L'agitation, ils sont la feuille qui peut partir partout. Alors, je crois que c'est très important de voir qu'au fond, Aristote, dans les catégories, il fallait le trouver. Hein. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est facile. On essaie de comprendre un peu. Il fallait trouver ces deux extrêmes de la qualité. Lexis, qui est l'intériorité de la qualité. Et c'est difficile, ça ne s'exprime pas. Aristote ne le dit pas, il ne dit pas l'intériorité de la qualité. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'habitus ? C'est difficile, vous voyez, même en français, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot qui traduit habitus. C'est obligé de dire disposition permanente, mais ça ne va pas du tout. Disposition stable. La stabilité d'un être. L'intériorité d'un être. C'est presque l'intériorité. Je crois que c'est l'intériorité. L'habitus, c'est quelque chose qui se perfectionne de l'intérieur. Vous voyez ? La différence entre la méthode et l'habitus. La méthode, c'est un outil extérieur. Et l'habitus, c'est intérieur. Mais quelqu'un qui est un novice dépend de la méthode. Un novice dans l'ordre scientifique. Un novice dans l'ordre de n'importe quelle technique. Et quand vous apprenez le dessin, bon, il y a une méthode. Il y a des professeurs qui suivent la méthode. Ils font d'excellents cours, ils sont des bons professeurs, ils suivent la méthode. Et puis, à un moment donné, vous vous libérez de la méthode. Parce que tout est très intériorisé. C'est la même chose pour l'homme vertueux. Des gens qui appliquent la loi. C'est le point de départ. Si on ne l'applique jamais, on n'apprendra jamais la vertu. La méthode est bonne, la méthode c'est tout simplement avoir un bâton ou avoir quelque chose sur lequel on s'appuie, parce qu'on ne sait pas. Puis petit à petit ça s'intériorise. Et c'est quand ça s'intériorise qu'on est en face de la vraie qualité. Vous voyez ? Les qualités, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste uniquement de l'extérieur. Alors est-ce qu'il n'y a pas... Vous voyez, on regarde un tout petit peu, je m'approche. N'y a-t-il pas le reflet, puisque c'est l'homme, l'âme et le corps. Alors est-ce qu'on devrait dire, il y a des qualités spirituelles, il y a des qualités corporelles. Parce que c'est bien ça. Lexis, c'est la qualité de l'âme, la sagesse et de l'âme spirituelle. Et la figura, c'est la qualité du corps. Vous voyez, Aristote ne le dit pas dans les catégories, il ne dit pas ça. Mais quand même, hein, comment a-t-il organisé ces catégories ? Avec toute sa philosophie. Alors on ne dit pas des qualités spirituelles. Jamais vous verrez Aristote dire des qualités spirituelles. Pourquoi ? Parce que l'âme, vous la saisissez comme un principe intérieur. C'est vrai, l'âme est un principe intérieur. La qualité est quelque chose d'immédiat. Alors, l'intériorité, qui dit intériorité pour nous n'est pas quelque chose d'immédiat. Alors, on dira qualité, quelque chose qui a une certaine intériorité. Et c'est vrai, l'habitus a une intériorité. C'est normal, vous voyez, les qualités d'un animal. Vous ne direz jamais en voyant un cheval, oh, comme il a de l'intériorité. Ce petit chat, comme il est intérieur. Non, non, c'est pas ça, c'est pas la qualité du chat. Vous regarderez la qualité de ses griffes. Vous regardez la qualité de son poil. Ça, c'est la fibra. Il n'y a que pour l'homme. L'habitus n'existe que pour l'homme. Parce que l'animal, quand vous le dressez, est-ce qu'il acquiert des habitus? Non. Il n'acquiert pas d'habitus. L'habitus qualifie l'homme. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est la qualité d'une intériorité qui se fait de plus en plus grande et qui rayonne. C'est, j'allais presque dire, c'est l'âme qui conquiert de plus en plus tout. C'est comme une espèce de rayonnement du spirituel, l'habitus. Ça, c'est la qualité, le rayonnement. La splendeur de l'âme. Alors, l'habitus. La beauté est un habitus. Philosophiquement parlant. Oui, c'est le resplendissement de la forme sur la matière. C'est la conquête. L'habitus, c'est toujours une conquête. Et au fond, l'habitus, c'est toujours une victoire. C'est la victoire de l'acte sur la puissance. C'est une très belle définition de la qualité, vous voyez, au plan spirituel. La victoire de l'acte sur la puissance. Quand vous êtes dans l'ordre de la potentialité, il n'y a pas beaucoup de qualité en vous. Il y a des espérances, on pourra faire quelque chose de lui, ce bon petit gars, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on sent bien, on espère bien que ça va venir. Mais attendez, c'est les défauts de jeunesse, c'est pas encore très très précis. Alors, il n'y a pas la victoire de l'âme sur les indéterminations, sur les potentialités. Un être indéterminé, ça manque de qualité. Vous avez donc, vous voyez, l'exis, c'est pour ça que... Parce que il faut essayer de saisir ce que c'est que l'habitus, c'est l'exis. Et saisir ça comme une qualité intérieure. Et la figura, ça c'est facile. La figura intéresse énormément l'artiste, c'est ça que ça l'intéresse. Quand on fait une caricature, c'est la figura que vous mettez en lumière dans une caricature. Pas du tout. Vous ne pouvez pas faire des caricatures de l'habitus. Impossible, c'est intérieur. Mais c'est vous qui saisissez cette intériorité. Cette intériorité dans le point de vue de l'exis. Puis alors vous avez les deux autres qui sont de l'ordre sensible, plus ou moins intérieur. C'est encore une question d'intériorité, d'extériorité, qui permet d'organiser ces quatre qualités. C'est très curieux. Comment la qualité fait le passage de l'intérieur et de l'extérieur. L'intériorité et l'extériorité. Jusque dans les deux autres, les qualitates passibiles et les passions. Les pâtés, les passions. Mais c'est quand même quelque chose de plus intérieur que les qualités visibles. Donc, il y a encore ici les deux aspects, quelque chose qui est plus proche du corps, quelque chose qui est plus proche de l'âme. Comment la qualité va être difficile à exprimer, une détermination de l'être qui va unir le point de vue de l'âme et du corps. Toutes les qualités sont liées à l'âme. Ça, toutes. L'âme, c'est l'ousia, c'est la substance. Toutes les qualités sont liées à la substance. La substance est source de qualité. Donc, elle est une méta-qualité. elle est la qualité au-delà de la qualité, puisqu'elle est source de qualité. Et le corps, puisque la substance, le pose de la substance humaine, c'est le corps, substance corporelle. Le corps sera-t-il source de qualité? Le corps sera avant tout, et nous le reverrons avec la quantité, le corps c'est avant tout l'aspect de la quantité. Mais il y a une victoire de l'âme sur le corps. Et cette victoire de l'âme sur le corps, et c'est vrai ça, il y a une victoire de l'âme sur le corps. Quand vous êtes trop fatigué, c'est le corps qui s'appesantit. Et votre corps n'est plus très qualitatif. Et c'est vrai ça. Et vous sentez bien. Il y a des jours où vous êtes plus ou moins qualitatif. Il y a des jours où vous êtes fatigué, c'est la quantité qui l'emporte. Et quand vous dormez, la qualité dort. Et c'est la quantité. C'est le domaine de la quantité. Alors, comprendre cette victoire de l'âme sur le corps, vous allez avoir les qualités sensibles. Et les qualités intérieures et les qualités sensibles. Je crois que ça nous aide à comprendre ce qu'Aristote dit sur les catégories. Pour en comprendre l'intelligence autrement, regarde ça de l'extérieur, dit Moïse, c'est très bien. En effet. Alors, essayez de comprendre comment la qualité manifeste la substance. Et comment la qualité est la victoire de la substance. Ça fait deux pistes très intéressantes pour saisir la qualité. La qualité manifeste la substance, c'est vrai. La sagesse est une manifestation étonnante de la substance. Et la figura, c'est la victoire de la substance, de l'âme sur le corps. Quelquefois d'une façon assez lamentable chez le bandit. La victoire de l'âme sur le corps chez le bandit. Le bandit, il a quand même une âme. Et il a beaucoup lutté, quelquefois. Et ça se remarque sur sa figure. Un enfant, ce qui est merveilleux chez l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de lutte. C'est merveilleux. Chez le bandit, le vrai bandit, hein, c'est un homme de lutte. C'est un homme poursuivi. C'est un homme qui n'a pas de repos. Pas de repos intérieur, pas de repos extérieur. Je ne parle pas au point de vue moral, hein, je parle au point de vue purement philosophique. Le bandit a quelque chose de très intéressant, au plan philosophique, vous voyez. Parce que c'est l'homme de la lutte, et alors quand même c'est l'âme, parce que si on lutte, c'est l'âme qui est victorieuse du corps. Quand le corps est victorieux sur l'âme, vous n'avez qu'un seul désir, c'est de vous étendre, et puis de faire le lézard, et puis... Oh, je dis, je suis fatigué, je dors. La victoire de l'âme sur le corps, c'est quand même chaque jour de vous réveiller. C'est une petite victoire de l'âme, quand même. Chaque jour, quand vous tenez debout, victoire de l'âme sur le corps, je me tiens debout. Je suis le seul animal à me tenir debout. Dites-vous ça le matin, au loin. Ça vous donnera du courage. C'est la victoire de l'âme sur le corps, quand même. Et cette victoire de l'âme sur le corps se manifeste même chez le bandit. Sa figura. Bon, ça c'est descriptif, mais c'est quand même très important. C'est une description intelligente de voir comment l'âme et le corps vont se manifester. Et je crois que ça c'est le propre du domaine de la qualité. C'est la manifestation et la victoire. Et comme la gloire. La gloire, c'est une qualité quand même. L'Orient, quelqu'un. Une espèce de manifestation qui se voit. Je crois que c'est ça qu'Aristote a voulu saisir dans les catégories. Alors il le dit à la manière d'Aristote, c'est-à-dire d'une façon extrêmement simple, croyant que nous comprenons tout de suite. C'est pour ça que les catégories, ce n'est pas uniquement la logique, vous voyez. Ce n'est pas du tout uniquement l'universel, c'est quelque chose qui exprime les déterminations propres de l'homme, dans son corps et dans son âme. Au plan métaphysique, alors l'autre extrême, hein, ça c'est l'aspect descriptif. Malaka.
Et ce qu'on peut traduire en français par la reine, qui apparaît la première, qui s'attache à nous, qui a une autorité et qui préside.
La dignité presque. Est-ce que c'est la dignité?
Non, c'est-à-dire la chose qui a une autorité sur nous et qui apparaît la première. C'est une reine comme une reine qui préside.
Ah, une reine qui préside, qui domine. La souveraineté, quoi. La majesté presque. Oui, parce que c'est. Oui. Alors, est-ce que. Vous voyez, on va essayer de voir ça. Quand je regarde la personne, puisque les catégories regardent l'homme, donc la personne. La personne, quelle est la première qualité de la personne? C'est la dignité. Et la dignité la plus manifeste, c'est la reine. Toujours, c'est chez la femme que la dignité se montre le mieux. Vous savez, ça, on voit ça au cinéma. C'est très curieux. Comme c'est difficile de jouer le rôle d'une reine, parce que les actrices ne sont pas des reines. Comme c'est difficile de jouer le rôle d'une sainte. Parce que les actrices ne sont pas des saintes. C'est plus facile de jouer le rôle d'un roi et d'un saint que d'une reine et d'une sainte. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Eh bien, vous voyez, on retrouve ça, là. Ça, c'est très curieux. La dignité, c'est l'habitus. Vous voyez, je disais la sagesse. Alors, évidemment, c'est... Ça regarde un petit peu les deux. Mais c'est ça, là. Parce que l'autorité, c'est quelque chose de caché. C'est vrai que l'autorité, c'est ça qualifie la personne. Mais la manifestation d'autorité, c'est la dignité. Et la manifestation de la dignité, dans ce qu'elle a de plus fort, c'est la reine. La majesté, la grandeur d'une reine. Et Blanche de Castille. C'est la dignité, c'est quelque chose de très curieux. Et un pays, pour le dire comme ça, un pays, quand elle a une reine qui a une dignité, une grandeur, la reine peut faire tout ce qu'elle veut de son pays, bien plus qu'un roi. Il y a une espèce de proclamation particulière de la dignité. Oui, alors ça touche l'exis. Tout à fait, c'est quelque chose d'assez particulier. L'exil, c'est la disposition. C'est moins analysé. Vous voyez ? Ça, je crois qu'il y a deux génies différents de la langue arabe et de la langue grecque. Ce serait très intéressant de regarder les deux. Parce qu'il y a, il y a un génie grec qui est très particulier, il y a un génie arabe qui est très différent. Vous voyez ? Parce que chaque langue, alors là, c'est autre chose, et au fond... C'est par l'aspect des qualités qu'on peut juger le legein, donc le dire de chaque langue. Dans le legein, le dire de chaque langue, vous avez, dans toutes les langues, vous avez un aspect intérieur et un aspect extérieur. C'est le propre du legein. Parce que le legein provient de la pensée et communique à l'extérieur. Alors c'est très intéressant de voir que lexis traduit de cette manière-là. Oui, vous disiez, il y avait autre chose.
Malaka.
Oui, Malaka. Qui exprime reine. À côté des catégories, donc c'est intéressant de voir, hein, parce qu'en fond, on pourrait presque dire que, vous voyez, reine, c'est, il y a la figura et l'habitus. La personne. Les catégories par rapport à la personne. Quelle est la catégorie première de la personne? Quelle est la qualité dominante de la personne? C'est la dignité. Vous voyez la différence entre l'analyse de l'être et l'analyse est la personne. La personne, c'est le pot, c'est le comment. C'est le comment de la substance, la personne. Parce que c'est la substance qui subsiste. Donc c'est le comment premier de la substance. Et alors la qualité dominante, c'est la dignité. Et la dignité n'est parfaitement dignité que chez la reine. Maxime étalé de la dignité, c'est la reine. C'est pas le roi, c'est curieux, ces choses-là. Il faudrait chercher pourquoi. Il y a quelque chose d'assez particulier comme ça, de cette manière-là. Bon. Parallèlement aux catégories, vous avez alors l'analyse métaphysique. Et Aristote ne donne que le résultat. Le livre Delta, dictionnaire, donne les résultats. Quel est, Aristote n'a pas fait dans les métaphysiques une étude de la qualité. Il n'a fait que l'étude de la substance. Vous allez dire, mais c'est normal, puisque une science s'attache avant tout au principe. Or, la substance est principe, la qualité n'est pas principe. Donc, n'est pas scientifique. Alors, il n'y a pas de regard métaphysique sur la qualité. Vous voyez l'objection tout de suite. Je me suis posé la question. Est-ce qu'au fond, Aristote n'a pas fait un chapitre particulier dans la métaphysique sur la qualité? Donc, c'est tout à fait inutile de faire un chapitre de la qualité dans la métaphysique. Moi, j'ai essayé d'en faire un. Donc, c'est anti-aristotélicien. Est-ce qu'il y a une métaphysique de la qualité? Je suis persuadé qu'Aristote s'est posé le problème. On ne fait pas une science d'un accident. L'accident n'est pas scientifique. C'est évident que ce n'est pas scientifique. On décrit les accidents. Et donc les accidents, on les laisse à l'art. Et la qualité, c'est l'art qui doit manifester la qualité. C'est l'art qui doit manifester la dignité de la reine. Ce n'est pas la métaphysique. Alors, voyez cette chose curieuse. J'ai essayé, ce qui ne se fait absolument pas dans toute la scolastique, de montrer que toute la métaphysique se termine sur la personne. Et je ne fais pas ça à cause du goût du jour, où tout le monde parle de la personne. Donc, il faut à tout prix introduire la personne. Non. C'est que je crois que la métaphysique se termine sur la personne. Et c'est très important, parce que le regard sur la personne permet, voyez, de faire mieux le lien entre substance et âme spirituelle. Et je crois que toute la métaphysique se termine sur la personne. Qu'Aristote ne l'ait pas dit, ça, c'est très bien, ça fait partie de quelqu'un qui découvre une nouvelle science, et qui nous donne tout de suite l'essentiel, les deux principes, substance et acte. Quand on a fait ça, c'est suffisant. Les autres n'ont qu'à continuer. Alors, est-ce qu'il y a, c'est la question qu'il faut se poser ici, c'est intéressant. Je pourrais la poser après, mais je la pose ici, parce qu'Aristote s'est sûrement posé la question. Y a-t-il une métaphysique de la substance? Puisque y a-t-il une métaphysique de la qualité? Puisque la qualité est un accident. Alors je dis oui, il y a une métaphysique de la qualité. La qualité n'est pas seulement saisie au niveau du legein. Elle est saisie premièrement au niveau du legein, ça c'est sûr. Parce qu'elle est attribuée comme un accident. Donc elle est saisie parfaitement au niveau du legein. Tandis que la substance n'est pas saisie au niveau du legein. La substance métaphysique. Elle dépasse. Le legein reste dans la dualité. Substance première, substance seconde. La qualité au niveau du legein, elle est quadruple. La substance se divise en deux, la qualité en quatre. C'est très curieux. Y a-t-il un regard métaphysique sur la qualité pour se dire qu'est-ce que c'est que la qualité? Parce qu'en disant le legein de la qualité, vous ne dites pas ce que c'est que la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Aristote ne fait pas l'étude, il nous en donne le résultat dans le livre Delta. Il nous montre bien qu'il a réfléchi sur le problème. Quand il dit dans le livre, dans la philosophie première, quand Aristote, dans la philosophie première, nous dit que la qualité, c'est la différence, la diaphora de l'ousia. Aristote quitte le legein pour avoir un regard métaphysique, un regard de philosophie première. Il dit que la qualité, c'est la diaphora de l'ousia. C'est la différence de l'ousia. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Très bien de répéter. La différence de l'ousia. Pensez un tout petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, la différence de l'ousia? Comment se fait-il que l'ousia peut avoir une différence? Comment comprendre ça, la lousia, c'est un principe. C'est quelque chose d'indivisible. Et Aristote nous donne ça. Ce qui prouve, et c'est ça que je veux soutenir, ce qui prouve qu'il y a chez Aristote une réflexion métaphysique de lousia, pour dire ça. Comment il n'aurait pas pu le dire ça? Il aurait répété les catégories, ce que nous ferions, nous, instinctivement. Aristote veut nous faire comprendre que la métaphysique de la qualité, c'est essayer de comprendre ces modalités particulières, ces manières particulières de l'être, de se donner à l'intérieur du pose de la personne. Et c'est ça qui me semble très intéressant. Aristote n'a pas parlé de la personne, puisque de fait, il a saisi ce que c'était que la personne, mais il n'a pas fait la métaphysique de la personne. Alors il aurait pu le faire. Parce que le pos de la substance, le comment de la substance, aboutit à la personne. Et une fois que vous avez le pos de la personne, le pos de la substance, je veux dire, dans la personne, vous pouvez alors à ce moment-là comprendre que la qualité va s'introduire dans la métaphysique comme une manière essentielle de l'être. C'est un accident, c'est-à-dire c'est second, mais c'est essentiel. Toutes les réalités que vous connaissez sont qualifiées. Donc c'est pas du tout un accident qui vient s'ajouter de l'extérieur. C'est quelque chose d'essentiel à l'être. L'être est qualifié. Tout être implique une qualité. Tout être. Vous vous poserez la question, quelles sont les qualités propres à la personne et comment on peut dire que l'être premier est lui aussi qualitatif. Et c'est vrai, j'attribuerai à Dieu des qualités. Puisque je dis que Dieu est intelligent. Puisque je dis que Dieu est volontaire. Donc j'attribue à Dieu des qualités. Ce qui montre bien que la qualité n'est pas un accident. Au sens quelque chose qui arrive accidentellement. C'est quelque chose d'essentiel. Alors vous voyez, c'est là où il faut éviter cet équivoque terrible. C'est que le mot accident a deux significations. L'accident métaphysique est essentiel à l'être. Et l'attribution accidentelle est en dehors de la science. Et quand j'ai dit tout à l'heure, la science ne s'occupe pas de l'accident, vous auriez dû bondir. Dire, attention, la science ne s'occupe pas du legein accidentel. ce qui est attribué d'une manière accidentelle. Mais la science s'occupe des déterminations essentielles, qui sont peut-être secondaires. La qualité est une détermination secondaire, mais elle est essentielle à l'être. Elle est essentielle à l'être que vous expérimentez, à ens, ce qui est, puisque ens est ce qui est, et ens, c'est moi, c'est la personne humaine. Et bien, la personne humaine est essentiellement qualifiée. Et donc, la métaphysique qui regarde ce qui est en tant qu'être doit regarder la qualité. Si vous suivez bien ce raisonnement, je crois que c'est important pour comprendre que la métaphysique ne regarde pas seulement la substance, mais regarde aussi la qualité. Autrement dit, il y a une philosophie première de la qualité. Et cette philosophie première de la qualité va montrer comment cette manière d'être, qui est la qualité, va tout de suite se relier à la substance. C'est la différence de la substance. C'est-à-dire que c'est la qualité qui va nous manifester ce qu'est la substance. C'est pour ça qu'elle est la différence de la substance. Elle est la manifestation de la substance, porte-bannière. Elle montre ce qu'est la substance de la manière la plus merveilleuse. Vous voyez, alors là, vous trouvez la reine. La reine manifeste ce qu'est la personne, ce qu'est la substance dans toute sa force. Parce que la qualité dominante de la personne, la qualité dominante visible, si je unis l'exis et la figura, c'est la dignité. Et c'est l'autorité. La dignité se manifeste en premier lieu dans l'autorité. Vous voyez, c'est intéressant ces choses-là, parce que ça nous fait comprendre comment il y a deux regards sur la qualité. Ce qui est normal, hein, parce que pour toute chose, nous avons deux regards. Et le danger, c'est qu'un exclut l'autre. Vous voyez, quand, dans la philosophie contemporaine, vous voulez ramener toute la philosophie à la philosophie du legein, la philosophie de la parole, il n'y a plus de métaphysique. Et quand la métaphysique oublie les catégories, oublie la logique, c'est aussi très dangereux. Parce que le legein, la parole, n'a plus rien à dire. Et donc il faut tout le temps montrer ces deux aspects. L'aspect métaphysique par rapport à l'être. La métaphysique, c'est le regard dans la lumière de l'être. Bien, la qualité, c'est une manière d'être. Et une manière essentielle d'être. Et une manière essentielle d'être qui qualifie la personne. Dans la personne, c'est le lien entre la qualité et la substance. C'est ça la personne. Et une personne sera parfaitement elle-même dans la mesure où il y a une harmonie parfaite entre les qualités et la substance. Alors ça, je crois que c'est très important pour saisir ce domaine de la qualité. On y reviendra, mais je saisis Aristote. Vous voyez comme c'est difficile de comprendre Aristote. Parce que quand Aristote dit uniquement dans le livre Delta, différence de la substance, on laisse passer. Alors que c'est très important, ça signifie que pour Aristote, la qualité peut être regardée dans un regard philosophique et métaphysique. Alors, à côté de ces deux aspects, vous avez la manière dont Aristote va se servir ou va regarder la qualité dans sa philosophie. Alors, je dirais, à côté de ces deux aspects extrêmes, donc les catégories et la philosophie première, vous avez la manière dont Aristote, en physique, donc la philosophie de la nature, va regarder la qualité. En physique, Aristote cherche en premier lieu comment un être mu est intelligible. L'intelligibilité de l'être mu, c'est les deux contraires. Les deux contraires, ce sont des qualités. La qualité implique la contrariété, la tension. Vous avez en vous des contraires. C'est pour ça que vous êtes tendu de temps en temps. Il y a des contraires. Faut-il la vie contemplative ?